Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
En République démocratique du Congo, cela fait un an que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri vivent sous état de siège, une mesure exceptionnelle décidée par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés dans l'est du pays. Depuis un an, les autorités civiles sont donc suspendues, l'armée et la police ont les pleins pouvoirs pour gérer les administrations et surtout restaurer la sécurité. Un an d'état de siège, quel bilan dressez-vous? En tout cas, sur le terrain, les attaques se poursuivent. Le nombre de morts a même doublé selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Plus de 2500 civils ont été tués ces 12 derniers mois, contre près de 1400 l'année précédente. Les députés nationaux de ces deux provinces affirment que la situation sécuritaire s'est empirée. Ils ont d'ailleurs récemment proposé une loi pour mettre fin à l'état de siège. À la place, ces députés suggèrent de renforcer et de mieux équiper les forces armées. Je vous rappelle tout de même, selon l'armée, il y aurait 20 000 hommes déployés dans ces deux provinces. L'état de siège serait-il inefficace? On en parle ce matin, 33 9 693 693 70. Et vos commentaires, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Je croule sous les réactions qui nous viennent de l'Ituri et du Nord Kivu. Je lirai évidemment quelques-uns de vos témoignages tout au long de cette émission. Et justement, on va d'abord commencer l'émission avec des auditeurs qui sont directement concernés par l'état de siège, hein, qui vivent au quotidien cette mesure exceptionnelle. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tout le monde.
Vous nous avez contacté via les réseaux sociaux, vous êtes à Butembo dans le Nord Kivu et vous disiez, au départ j'étais plutôt optimiste, mais maintenant rien ne va plus.
Oui, j'étais parmi les rares personnes à croire que Félix Tshisekedi pouvait changer les choses. Et quand il est venu à décréter cet état de siège, mais dit bon, voilà, ça, il va dans le bon sens, et peut-être qu'on aura une sécurité à Beni et à Ituri peut-être. Mais malheureusement, depuis que cette mesure exceptionnelle a été décrétée, je constate que ça devient de plus en plus pire à pire.
Et pourquoi, selon vous, pourquoi ça ne marche pas, bienvenue?
Moi, je pense que la guerre qui est au Nord Kivu et à Ituri, c'est une question de volonté. Le président Félix Tshisekedi a envoyé des gens pour finir avec cette guerre, mais malheureusement, on constate qu'il n'y a pas une volonté d'en finir avec cette guerre. Je vais vous donner quelques exemples.
Oui.
Depuis que l'état de siège a été décrété, personne ne me dira qu'ils ont fait quelque chose qu'on trouve positif. Depuis que cette mesure justement a été décrétée, la route Beni-Bunia n'est plus praticable, la route Beni-Kassindi, on ne peut plus y parler. Je trouve que cette situation nous met à genoux. Par exemple,
bienvenue. Donc, à vous entendre, peu de choses ont changé, mais est-ce que vous diriez que la situation s'est même dégradée ces 12 derniers mois? Je parle de la situation sécuritaire.
La situation sécuritaire s'est complètement dégradée, et je dirais qu'elle s'est multipliée d'ailleurs par 5, parce que quand les autorités civiles géraient ces entités, il n'y avait pas autant de morts que ce que nous voyons maintenant.
D'accord. Donc, vous seriez favorable pour mettre un terme à l'état de siège?
Je suis largement favorable, ouais. Et c'est ce que je souhaite que le président Félix le fasse. Et
alors,
on
verra s'il le fera ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, et ça a été annoncé hier soir par la présidence, le président Tshisekedi souhaite organiser une table ronde pour décider de l'avenir de l'état de siège décrété il y a exactement un an. Je vous lis quelques commentaires reçus notamment sur le compte WhatsApp de l'émission. Céline nous a écrit de Beni, dans le Nord Kivu. L'état de siège est totalement inefficace, les tueries sont quotidiennes. Des tueries, dit-il, qui ont lieu au vu et au su de ces mêmes autorités qui nous chantent matin, midi et soir qu'elles sont venues pour combattre les rebelles. L'état de siège, loin d'être une solution, semble même être le problème, nous dit cet auditeur. Et puis, une autre réaction avant de repasser au standard. Samuel à Bunia dans l'Ituri. À quoi bon maintenir l'état de siège si les choses ne s'améliorent pas? L'état de siège n'a produit aucun effet satisfaisant ou visible. Les les deux provinces continuent de subir des violences meurtrières de groupes armés bien identifiés par nos autorités. Bonjour Omar.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Beni, dans le Nord Kivu, également concerné quotidiennement par l'état de siège. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut maintenir cette mesure exceptionnelle.
Vous savez Juan, cette question en rapport avec l'état de siège, il faut l'aborder sans état d'âme. C'est vrai, les attentes que nous avions et que nous continuons à avoir ne sont pas encore réalisés. Et nous passons, malheureusement, qu'on est en train de chercher parfois les responsabilités ailleurs. Monsieur Rouen, vous savez qu'on vit de la Constitution. Lorsque l'état de siège a été institué, il devait être voté une loi, la loi portant mesure d'application de cet état de siège par le Parlement. Cette loi, une année après, n'a jamais été votée.
Attendez, excusez-moi Omar, on ne va pas rentrer dans le détail de la Constitution, et là, le point que vous évoquez m'échappe totalement. Mais ce que je sais, vous n'allez pas me contredire sur ce point, c'est que tous les 15 jours, le Parlement, les députés, votent la prolongation de l'état de siège.
Justement, c'est de là qu'il faut partir. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'évaluer l'état des sièges, mais on n'a pas de repères, on n'a pas de thermomètres. Naturellement, il y a des efforts qui sont consentis, mais qui ne nous amènent pas encore au résultat escompté. Cependant, il faut dire que cet état des sièges a souffert de deux éléments. Le premier, c'est cette loi portant mesure d'application de l'état des sièges, mais aussi le moyen, parce que les militaires qui sont ici, ils ne sont pas dotés sérieusement tels qu'on les croyait.
C'est-à-dire que les militaires que vous voyez sur le terrain, à Beni notamment, selon vous, ne sont pas suffisamment bien armés.
Mais bien sûr, la logistique adaptée à la taille de cet ennemi auquel on fait face, ce n'est pas cette logistique imposante qu'on croyait. Ces opérations robustes qu'on devait voir, elles ne sont pas celles-là. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, au niveau du Parlement, même si nos élus du Nord Kivu et de l'Ituri sont de ceux qui vilipendent de cet état de siège, ils n'ont pas fait assez pour lui donner la forme qu'il faut et le contenu qu'il faut, en sorte qu'il soit une véritable réponse à ces mâles auxquels on est confronté.
Donc vous dites qu'il est temps d'adopter la loi dont vous parliez à l'instant pour donner davantage de moyens aux militaires pour que l'état de siège soit maintenu et surtout qu'il prouve son efficacité. Grâce nous écrit du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Il nous dit, nous avons une seule armée, nous devons la soutenir, on doit maintenir l'état de siège, mais ce que nous exigeons des militaires qui se trouvent dans ces deux provinces, c'est de ne pas négocier avec l'ennemi et de le frapper jusqu'à ce que la paix revienne ici à l'Est. L'armée doit récupérer tous les villages qui sont sous contrôle des rebelles et des milices. Bonjour Raoul.
Bonjour.
Vous dites qu'il est temps d'arrêter l'état de siège.
Oui, naturellement, il est temps vraiment qu'on arrête avec ça, parce que cet état de siège a pris beaucoup d'argent aux contribuables congolais, et là on ne sait pas, ça n'avance pas, on a comme l'impression que la situation s'est empirée contrairement à avant cet état de siège.
Vous dites que c'est votre sentiment, mais en même temps, quand on écoute les autorités, vous avez peut-être suivi la semaine dernière Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre sur RFI, disait l'armée chasse notamment les ADF dans de nombreux bastions qui leur appartenaient. Donc ça veut dire que malgré tout, peut-être que les résultats n'arrivent pas aussi vite, mais il y a des résultats.
Mais non, mais il faut poser d'abord la question aux populations du Nord et du Sud, Kivu, les deux zones où on a décrété cet état de siège. Il faut commencer par là, parce que le Premier ministre peut toujours raconter ce qu'il raconte. C'est bien, il dit l'armée a frappé. Qu'est-ce que l'armée a dû récupérer exactement? Parce que les tueries continuent. Les populations sont toujours dans des situations très graves et on ne sait pas toujours à quoi cet état de siège a servi depuis son instauration. Et cet état de siège devait être une situation d'exception exception, mais finalement, on a comme l'impression que ça prend. Donc, c'est devenu normal que les gens vivent dans un état de siège qui continue et qui continue sans résultat.
Alors,
c'est l'impression que cela nous donne.
Mais bien sûr, c'est une mesure d'exception, mais le président a été très clair dès le début. Hein, le président Tshisekedi, l'état de siège restera en vigueur jusqu'au dernier retranchement de ces barbares. Ce sont les propos du chef de l'État, des propos tenus il y a maintenant un an. 33 9 693 693 70. Bonjour Isaac.
Bonjour Juan.
Faut-il maintenir l'état de siège ?
Exactement, il faut maintenir l'état de siège. Je vais aborder dans le même sens que Meshak de Béni et non pas dans le sens de Raoul qui a parlé tout à l'heure. En fait, j'ai bien suivi tous les interlocuteurs. Remarquez une chose, c'est ceux qui sont à l'est de la République où sont faites ces atrocités qui demandent qu'on puisse maintenir l'état de siège. Et ceux-là qui sont au loin, comme moi ici, disent non, il ne faut pas maintenir l'état
non,
de siège.
Non. Isaac, excusez-moi, le premier auditeur, bienvenue à Boutembo, est au Nord Kivu, il est concerné par les violences quotidiennes, lui disait qu'il fallait mettre fin à l'état de siège. Donc on, voilà, on ne peut pas généraliser. Après, chacun est libre d'avoir son analyse, son opinion. Donc vous-même, Isaac, vous dites qu'il faut maintenir. Expliquez-nous pourquoi.
Pourquoi je dis qu'il faut maintenir, puisque cet état de siège a mis à mal tous les groupes armés qui sont à l'est de la République, non seulement eux, et même l'État, si je peux me réserver de citer le nom, qui soutient ces groupes armés. Regardez, nous avons constaté dernièrement le M23 qui avait disparu, qui tout d'un coup renaît. Alors, d'où je note qu'il y a 7 ans en arrière, le chef armée du M23 avait fui du Congo vers la RDC. On avait promis de rapatrier ce chef du M23 qui n'est jamais venu. Donc, si les groupes armés demandent aujourd'hui à se mettre autour d'une table et à négocier, cela est un indicateur qui prouve que cet état de siège met à mal. Alors, je suis pour le maintien de l'état de siège et non pour les négociations qui se passent en ce moment.
Donc pas question de négocier avec les groupes rebelles locaux, hein, puisque les négociations entamées il y a 10 jours concernent les groupes rebelles locaux et non les groupes étrangers, en l'occurrence les ADF. On va repasser au standard, il y a beaucoup de monde qui souhaite prendre la parole. Je vous lis le commentaire de Clotaire dans le Nord Kivu, il est à Béni. L'état de siège n'a jamais soulagé la population de la province, il ne fait qu'enrichir les autorités militaires venues des autres régions, mais nous, la population, nous souffrons. Emmanuel, l'état de siège est une mascarade. Il a permis aux militaires de piller la province. Jimmy, le président Tshisekedi l'a dit, nous sommes devant une guerre asymétrique. La plupart des bastions rebelles ont été détruits, affirme cet auditeur. Donc pour moi, le bilan de l'état de siège est plutôt positif. Bonjour Georges.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Quel bilan dressez-vous de l'état de siège un an après ?
Oui, un an après 23e dérogation, on sait voir que cette histoire-là ne porte confiance à personne. Je vais commencer par là où vous avez fini pour dire que lui-même a parlé des groupes rebelles, des barbares. Aujourd'hui, à Nairobi, on est censé discuter avec ces mêmes barbares. Alors, je vois pourquoi on doit, d'un côté, négocier et de l'autre côté, maintenir cet état de siège qui ne donne pratiquement pas de résultats. Il l'a reconnu lui-même. Quand vous acceptez de négocier, de parler avec des rebelles, c'est que vous êtes incapable de les foutre dehors, comme il nous a promis. Je pense que cette histoire a vraiment beaucoup pris beaucoup d'argent. Il faut maintenant que les autorités militaires cèdent le pouvoir aux autorités civiles, qui vivent dans les civils, qui doivent s'occuper de l'administration, et les militaires vont continuer à faire ce qu'ils vont faire. Mais l'état des chaises ne va pas donner les résultats escomptés.
Ouais. Georges, vous dites que les militaires sont incapables. Est-ce que c'est un manque de volonté, selon vous, ou un manque de moyens ?
C'est une fois de plus, c'est un manque de moyens. Et le président nous a engagés dans une histoire qu'il savait lui-même que ça devrait nous coûter très cher. Aujourd'hui, on passe à la 23e prorogation, Juan.
Oui.
Vous savez combien l'État perd dans cette histoire ?
23e prolongation, parce que tous les 15 jours, les députés votent la prolongation de l'état de siège.
Hein. Voilà. Affirmatif, c'est vraiment inconcevable. Je crois que nous sommes en train de perdre et le temps et l'argent. Mais la situation sur le terrain ne change absolument pas. Je crois que le président doit revoir encore son fusil d'épaule pour dire que non, on doit cesser avec cette stratégie. si on va négocier, qu'on négocie avec les rebelles parce qu'il le fait déjà, je ne vois pas pourquoi on doit encore continuer à faire souffrir notre population de l'Est. Moi, je suis désolé, mais cette histoire n'a pas donné les résultats escomptés.
Ouais, Célestin nous écrit de Kolwezi. Il nous dit qu'au regard de la persistance des massacres, il est indéniable qu'il faut lever l'état de siège et réfléchir à d'autres options. Il faut, dit-il, procéder à des frappes aériennes sur les zones où sont retranchés les groupes armés terroristes. Georges, merci d'avoir appelé de Kinshasa. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Quel bilan dressez-vous ? Bah, très très bien, je suis ravi de dialoguer avec vous tous ce matin, comme tous les jours d'ailleurs. Laurent, quel bilan dressez-vous de l'état de siège ?
Oui, le bilan est satisfaisant. Je ne dirais pas que nous avons atteint tous les objectifs par rapport à ce que nous nous sommes assignés. Et nous sommes en face d'une guerre asymétrique où les rebelles n'ont plus de bastions officielles. Parce que l'état de siège permet que tous les bastions de ces groupes rebelles soient détruits. Et aujourd'hui, ils sont errants dans la nature et ils commettent maintenant des assassinats et des tueries, des violences pour faire révolter la population autochtone afin de nier les effets de l'état de siège. Mais le bilan est satisfaisant par rapport à...
Vous dites que le bilan est satisfaisant. Alors vous êtes à Kinshasa, vous avez peut-être de la famille dans l'Ituri et dans le Nord Kivu qui vous tient informé. Mais certains disent qu'au lieu de contenir la violence, les frappes qui sont menées par l'armée congolaise, et notamment, on l'a vu fin de l'année dernière, appuyées par l'armée ougandaise, ces frappes ont élargi le périmètre d'action des rebelles, et notamment des ADF. C'est-à-dire qu'on va les frapper là où ils sont, Et du coup, les ADF se propagent un peu partout dans la région, dans la province.
Ils n'ont plus des bases. Ils n'ont plus des bases, mais ils commettent maintenant des forfaits de manière disparate. Et ça, maintenant, c'est le travail aussi de la population autochtone qui doit dénoncer et permettre à l'armée de continuer ce travail qu'elle a déjà commencé.
D'accord, donc vous êtes plutôt optimiste, bilan plutôt positif. Merci Laurent, bonne journée. On termine avec Valentin, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes. Bonjour Valentin.
Bonjour RFI, chers auditeurs.
Et merci de nous appeler de Goma. L'état de siège fonctionne-t-il ?
Voilà, merci beaucoup pour la question. Moi je dirais, je ne suis pas optimiste comme Laurent, je dirais que l'état de siège, je suis pour cet état de siège, mais elle n'a pas apporté les fruits escomptés. Et pourquoi je le dis ? Parce que aujourd'hui, les exactions continuent. Quand j'entends mon frère Laurent dire qu'ils se sont éparpillés, oui. Disons, non, c'est faux, ils ne se sont pas éparpillés. Je vais dire à mon frère Laurent que moi, j'ai eu affaire Goma, Bounia, par voie routière. J'ai vu ce que ces gens-là sont capables de faire pendant l'état de siège. Donc pour nous qui vivons cet état de siège, nous disons que cet état de siège devait être qualifié, devait avoir plus de moyens. Et pour essayer un peu de faire face à cette force des ADF. Ouais.
Valentin, on tend l'oreille, c'est important, vous avez un témoignage, mais malheureusement, on est en direct, et on est en fin d'émission, on ne peut pas vous rappeler, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne dans moins d'une minute, mais voilà, on interrompt là la discussion, parce qu'on a du mal à vous comprendre à cause de la mauvaise qualité du réseau téléphone. On essaie de vous rappeler, Valentin, demain peut-être pour la libre antenne, vous savez que le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, et on peut, si vous le souhaitez évidemment, prolonger la discussion. Il y a encore des commentaires. Il y a Jules dans le sud Kivu qui nous dit « Il est temps de mettre fin à l'état de siège, de privilégier les opérations militaires conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Jim, à Bukavu, les militaires et les policiers qui ont remplacé les autorités civiles se comportent en politiciens au lieu de s'activer dans le renseignement et la traque des groupes négatifs. » Et puis Jordan à Bounia dans l'Ituri, « L'état de siège a échoué sur tous les plans. Alors continuer à maintenir cette mesure, c'est accepter la mort de paisibles habitants. » C'est la fin du débat, c'était passionnant comme tous les matins. Merci de votre confiance, on sera de retour demain. We'll be right back.
Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique, avec un accès à plus de 1000 salons d'aéroports Launchkey, vous a proposé Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.